Merci à tous d'être venus. Nous sommes très contents d'accueillir Éric Sablé ce soir. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le livre qu'il vient présenter ce soir, Le dictionnaire du bouddhisme zen, est un livre qui n'a pas d'équivalent, qui n'en a quasiment jamais eu en français ou même dans une autre langue, je pense. Donc un livre sur le bouddhisme zen est vraiment une très très bonne nouvelle. On aura le temps ce soir d'en parler. Et puis, parce que nous sommes toujours contents d'accueillir Éric Sablé, qui travaille depuis de nombreuses années sur les philosophies orientales, sur des traditions mystiques, aussi bien chrétiennes que taoïstes, que bouddhistes ou hindouistes. Il a une double casquette, on peut dire. Il dirige une collection chez Dervy qui s'appelle Chemin de Sagesse, dont vous allez trouver quelques livres sur la table, qui est une collection qu'on aime beaucoup parce qu'elle foisonne de textes et d'auteurs issus de ces traditions orientales pour la plupart, et souvent des textes assez différents qui portent sur des auteurs dans le taoïsme par exemple, dont on parle un petit peu moins. Et il a aussi une autre casquette qui est une maison d'édition à Toulouse qu'il a fondée, qui s'appelle Terre Blanche, et qui porte également aussi sur les spiritualités d'Orient. Éric Sablé traduit lui-même du sanskrit et du tibétain certains textes inédits, et voilà, ça fait toujours du bien aussi d'avoir des nouveautés dans ce domaine-là. Donc nous sommes très contents de recevoir Éric Sablé. Nous allons parler du dictionnaire du bouddhisme zen ce soir. Et je vais d'ailleurs laisser tout de suite la parole à Éric, parce que lui en parlera beaucoup mieux que moi.
Bon, je vais parler un peu du zen. Alors, tout d'abord, le mot zen. Je pense que c'est toujours intéressant comme ça de voir l'étymologie d'un mot, de voir d'où vient un mot. C'est toujours très éclairant. Zen, c'est l'abréviation du mot zenna, qui est lui-même la prononciation japonaise de chan, du chinois chan, qui est le chan, c'est en fait là aussi l'abréviation du mot chana. Et chana est la transcription chinoise du mot sanskrit dhyana ou du pali jhana. Voilà. Donc, on voit tout de suite que le mot zen est l'abréviation d'une abréviation d'une déformation. Hein ? On voit toute cette espèce de filiation, en quelque sorte, comment, à partir du mot dhyana ou jhana en pali, on est arrivé au mot zen qui apparemment n'a rien à voir. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant parce que le mot, justement, dhyana, le mot originel, le mot qui est à l'origine du mot zen, veut dire méditation. Et jhanas sont en fait, les jhanas dans le bouddhisme originel, dans le bouddhisme Theravada, sont des états d'absorption intérieure. Il y a quatre rupa jhanas et quatre arupa jhanas, c'est-à-dire quatre états d'absorption avec forme et quatre sans forme. Voilà. Déjà, on a un petit peu une idée de ce qu'est le zen avec simplement, en étudiant simplement cette origine, cette étymologie du mot. Cela dit, pour le maître zen Chang Chengji, le maître chinois Chang Chengji, il dit que le zen est quelque chose de rond, de glissant, de lisse et de toute façon d'impalpable et d'indescriptible. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas parler du zen. Hein, c'est extraordinaire, on ne peut pas parler du zen, puisque c'est tellement lisse et glissant et indescriptible qu'on ne peut pas en parler. Bon, on va quand même essayer d'en parler, on va quand même essayer de dire quelque chose sur cette notion, sur cette chose, entre guillemets, indescriptible. Hein. Et on peut dire que le zen est un petit peu une réaction à ce qu'étaient les écoles bouddhistes à l'époque. Les écoles bouddhistes, à l'époque, se complaisaient dans des rituels, dans des récitations de sutras, et puis dans des spéculations intellectuelles. Les spéculations intellectuelles tenaient beaucoup de place dans la vie bouddhiste. À tel point, je ne sais pas si vous le savez, la logique bouddhiste était très très réputée en Inde. Hein, et si la logique indienne s'est constituée, elle s'est constituée en fait contre la logique bouddhiste. Parce qu'il y avait des controverses auxquelles participaient des hindous et des bouddhistes, et c'était malheureusement ou heureusement très souvent les bouddhistes qui l'emportaient, parce que justement ils étaient très forts au niveau de la spéculation. Voilà. Et à cette époque-là, on ne plaisantait pas, c'est-à-dire que celui qui était vainqueur, celui qui était vaincu plutôt, devait embrasser la religion de celui qui était vainqueur. C'est-à-dire que lorsque c'était les hindouistes qui avaient perdu, ils devaient embrasser la religion bouddhiste. Voilà. Et c'est comme ça que le bouddhisme s'est répandu dans toute la péninsule indienne. Maintenant, on peut dire que le bouddhisme zen est donc un retour à l'origine, un retour à l'essentiel. On laisse de côté la spéculation, on laisse de côté même les bonnes œuvres, même les récitations des sutras en partie, et on arrive à l'essentiel qui est la connaissance de notre nature originelle, qui est une avec la nature de Bouddha. Hein, c'est-à-dire que nous sommes tous l'expression de cette nature de Bouddha. Au fond, nous sommes tous nature de Bouddha, nous sommes toute cette nature de Bouddha. Hein. Et donc, le zen, on peut dire, pour en quelque sorte résumer la chose, le zen a rassemblé le bouddhisme sur l'essentiel qui est la connaissance de notre nature originelle, qui est la nature de Bouddha. Voilà, on peut résumer les choses comme ça. Maintenant, il y a la légende de l'origine du bouddhisme zen qui est très parlante comme toutes les légendes. Vous le savez, par exemple, la légende de Bouddha, lorsque l'on l'étudie d'un point de vue symbolique, est extrêmement parlante. Et bien, il en est de même de la légende du bouddhisme zen. Or, quelle est cette légende de l'origine du bouddhisme zen ? Elle est très belle et très simple. On dit qu'un jour, le Bouddha Sakyamuni prit une fleur et la leva comme ça, devant l'assemblée des moines, sans rien dire. Et il y a un seul de ses disciples qui avait compris l'allusion, qui est le moine Mahakasyapa, et qui lui sourit. Et alors on dit que le Bouddha demanda à Mahakasyapa de venir le retrouver après, justement, lorsque tous les disciples étaient partis, et il lui a transmis secrètement, en quelque sorte, l'essence du bouddhisme. Voilà, hein. Et ensuite, cette transmission s'est opérée en Inde, et puis ensuite, elle est arrivée en Chine avec Bodhidharma, comme on le verra. Il y a eu 28 patriarches, en quelque sorte, indiens, et puis ensuite, Bodhidharma, qui est, selon la légende, toujours arrivé en Chine. Et alors, maintenant, on peut s'interroger justement sur ce geste mystérieux. Quel est ce geste mystérieux de lever comme ça une fleur et de la montrer aux disciples ? Alors déjà, on peut voir que c'est une transmission au-delà des mots, au-delà des discours et des spéculations. C'est une transmission directe, de maître à disciple, dans le silence. Hein ? Il n'y a pas de parole, c'est simplement par le silence, en quelque sorte, que se transmet l'ultime vérité du zen, parce que l'ultime vérité du zen, justement, est silence. Elle ne peut pas être réduite, justement, à des spéculations ou à une formulation mentale. Hein ? On peut dire aussi que ce geste symbolique du Bouddha est un peu semblable au koan. Vous avez peut-être entendu parler des koans du zen. Les koans, ce sont ces petites phrases comme ça en apparence incompréhensibles que le disciple doit méditer jusqu'au moment où se produit l'illumination. Alors, ces koans, par exemple, ce sont des phrases qui, en apparence, sont complètement dénuées de sens. Je vais vous en citer deux qui sont très connues. Le premier, c'est « Vous connaissez le son que font deux mains. Maintenant, quel est le son d'une seule main ?» Voilà. Et c'est notamment sur ce koan que Akuin, le grand maître Akuin, avait médité pendant des semaines, des mois, des années. Et on doit méditer dessus comme ça jusqu'au moment où se produit une espèce de court-circuit dans le mental, une espèce de rupture. Et cette rupture, c'est le satori. C'est un satori. Alors, il y a toutes sortes de satori. Hein. Le satori, on peut le traduire par illumination. Hein. Alors, il y a toutes sortes d'illuminations. Il y a des petits satori, il y a des grands satori. Hein. Je me rappelle que Linson, par exemple, on lui avait demandé un jour s'il avait vécu le satori et il avait répondu « un petit satori ». Voilà. Donc il y a des petits satori, il y a des grands satori, il y a des satori même ultimes, hein, selon certains, et puis d'autres qui disent qu'il n'y a pas de satori ultime, que de toute façon, on progresse toujours de satori en satori, d'illumination en illumination. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, précisément, ce rapport, en quelque sorte, entre le koan et le satori, entre le koan et l'illumination. Il y a un autre koan que j'aime beaucoup, que je vais vous citer, c'est « Toute chose retourne à l'un, mais où donc retourne l'un ?» Voilà. Hein ? Je vous laisse un petit instant comme ça, vous imprégner de cette phrase qui est à la fois absurde et très belle. Très belle, parce que toute chose retourne à l'un, ou donc retourne l'un, ça pourrait être quasiment un poème zen. Hein ? Et la poésie d'ailleurs, comme peut-être on en parlera, la poésie a beaucoup d'importance dans le zen. Hein, il y a eu un lien extrêmement étroit entre poésie et zen, comme on le verra, comme il y a un lien très étroit entre zen et humour. C'est-à-dire que nous avons toujours l'idée, l'impression, nous associons toujours la spiritualité avec le plus grand sérieux. Hein ? Or, lorsque l'on étudie justement les spiritualités orientales, et particulièrement le zen, on s'aperçoit qu'il n'y a pas ce lien que nous faisons entre spiritualité et sérieux, et que précisément le zen est très lié justement à l'humour, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre humour et spiritualité dans le zen. Voilà. Maintenant, je vous ai dit que le Chan, donc le bouddhisme zen version chinoise, hein, avait été apporté par Bodhidharma. Bodhidharma au 5e siècle après Jésus-Christ. Et donc il a fallu quand même 10 siècles pour, à partir de l'époque du Bouddha, ça arrive finalement en Chine. Hein. Et c'est assez difficile parce que précisément le bouddhisme est absolument opposé à toute la pensée chinoise. La pensée chinoise est une pensée qui est concrète, où on ne conçoit pas qu'un être puisse vivre sans travailler. Or, dans le Sangha originel du Bouddha, vous savez peut-être que les moines devaient mendier. Hein. Donc l'état de moine, déjà, est absolument contraire à toute la morale chinoise, confucéenne notamment. Hein? Donc, alors que le bouddhisme s'était répandu très facilement en Asie centrale, il s'est heurté en quelque sorte à un mur lorsqu'il est arrivé en Chine, et c'est pour ça qu'il a mis tant de temps à pénétrer en Chine. Et pour cela, pour pouvoir pénétrer en Chine, il s'est servi du cheval de Troie du taoïsme. Hein? Vous savez qu'une des trois grandes religions de la Chine, c'est le taoïsme. Il y a le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, qui est né donc à l'époque, la même époque que le bouddhisme, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, fondé par Lao Tzu. Or, au début, on le sait ça parce que les divinités taoïstes et les divinités bouddhistes étaient mélangées intentionnellement, il s'est servi en quelque sorte du taoïsme pour pénétrer à l'intérieur de la Chine, pour pénétrer précisément l'empire du milieu. Hein? Et ça, c'est de façon historique. Maintenant, du point de vue de la légende, c'est Bodhidharma, mais Bodhidharma a peut-être réellement existé. On n'a pas de traces vraiment historiques, mais on a des traités, en tous les cas, qui lui sont attribués. C'est Bodhidharma qui aurait amené le Chan, qui aurait amené cette façon, disons, très particulière d'envisager le bouddhisme en Chine. Voilà. Hein? Donc, il est arrivé dans un pays qui était déjà bouddhiste. Hein, qui était déjà bouddhiste depuis un certain temps, mais qui ne connaissait pas cette voie directe du Chan. Et on raconte qu'il a convaincu très très peu de bouddhistes chinois et qu'il avait en tout et pour tout que deux disciples. Un de ces deux disciples, c'était Huike. Huike, qui était quelqu'un de très déterminé. Et un jour, Bodhidharma a réuni ses deux seuls disciples et leur a demandé « Est-ce que vous êtes capable de donner votre vie pour le Dharma » C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment motivé pour trouver la vérité, hein, c'est ça que ça veut dire. Et pour prouver sa motivation, la légende raconte que Huike se coupa le bras et tendit son bras coupé à Bodhidharma. Et à ce moment-là, Bodhidharma réalisa que Huike était vraiment très très motivé pour trouver la vérité. Alors maintenant, on raconte d'autres histoires à propos de Bodhidharma. On raconte notamment une histoire qui est assez intéressante, c'est qu'il rencontra l'empereur Wu. L'empereur Wu qui était un bouddhiste convaincu à l'époque, mais qui ne connaissait pas du tout le Chan. Et cet empereur bouddhiste, l'empereur Wu, avait construit notamment énormément de temples, énormément de monastères, et notamment des temples immenses. Il y avait notamment la grande pagode de Luoyang qui faisait 200 mètres de haut. C'est-à-dire, vis-à-vis de la pagode de Luoyang, nos cathédrales sembleraient minuscules. Hein, et entièrement en bois, 200 mètres de haut. Et il avait couvert le pays de temples et de monastères. Hein, donc c'était un bouddhiste, on pourrait dire, un peu fanatique. Hein, un petit peu fanatique, voilà. Hein? Et donc, comme ça, il fait venir Bodhidharma, puisque voilà, ce moine qui venait de l'Inde, il était intrigué, il voulait savoir quel était son enseignement, il était bouddhiste, donc ça l'intéressait. Et il lui demande, il lui décrit tout ce qu'il a fait pour le bouddhisme, et il lui demande quel est, en quelque sorte, le bon karma que j'ai tiré de ces bonnes actions. Et à ce moment-là, il y a Bodhidharma qui le regarde et lui dit rien du tout. Alors, il y a l'empereur Wu qui est un petit peu surpris. Il est un petit peu surpris et là, il lui demande, qui il est. Il dit, mais alors, qui vous êtes? Et Bodhidharma lui répond, j'en sais rien. Donc, il est très intrigué par ce moine étranger. Et du coup, comme il n'avait pas convaincu, il ne l'aidera pas. Et Bodhidharma passera plusieurs années en méditation devant un mur. Hein, et ça, c'est très important. Bodhidharma, c'est celui qui a médité devant un mur. C'est-à-dire, il a médité dans un mur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a regardé dans une direction où il n'y a rien à voir. Voilà ce que ça veut dire. Hein? Et ça aussi, c'est assez intéressant d'un point de vue du Zen, parce que ça montre que justement, l'essence du Zen est aussi liée au vide, hein, est aussi liée à la vacuité. Voilà. Regardez le mur, regardez là où il n'y a rien à voir. Et dans l'école Soto du Zen, encore actuellement, on médite justement face au mur. Hein, pas dans l'école Rinzai, mais dans l'école Soto, on médite face au mur. Voilà. Et alors on retrouve par contre ce qui est intéressant, c'est que dans l'enseignement justement de Bodhidharma, on retrouve justement un petit peu tous les différents courants du Chan à son début, hein, parce qu'il a laissé des écrits qui n'ont vraisemblablement pas été écrits par lui, pas forcément été écrits par lui, mais qui reflètent quand même bien les différents courants du Chan qui existaient. Hein.
Et si je peux me permettre juste une petite question en passant.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement la différence qu'il y avait entre le bouddhisme chinois pratiqué par l'empereur à cette époque-là et Bodhidharma, c'est-à-dire en quoi Bodhidharma et sa vision a-t-elle été en différence ou en rupture avec le bouddhisme chinois de l'époque?
Oui,
juste, est-ce
oui.
que tu peux peut-être...
C'était très très différent. C'était très différent.
Est-ce que c'était moins ritualisé
Les écoles qui existaient à l'époque en Chine, il y avait beaucoup d'écoles. Il y avait beaucoup d'écoles bouddhistes en Chine. Il y avait notamment l'école de la Terre pure, qui est restée d'ailleurs l'école la plus nombreuse. Au Japon, c'est encore l'école la plus nombreuse. Hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'au Japon, c'est l'école Zen qui est l'école bouddhiste la plus importante. Hein. Pas du tout. Hein. L'école de la Terre pure... est beaucoup plus importante. Disons, la différence est assez importante.
Donc là, on est dans le bouddhisme japonais.
Le reflet des écoles chinoises. Hein. Donc, c'était le bouddhisme de la Terre pure qui consiste à réciter le nom du Bouddha, Amida, et en espérant renaître justement dans le paradis du Bouddha Amida. Hein, ça c'était le bouddhisme de la Terre pure. Il y avait les bouddhistes justement Tiantai et Huayan qui étaient des bouddhistes beaucoup plus spéculatifs, beaucoup plus intellectuelle en quelque sorte. Hein. Donc il y avait des écoles en quelque sorte où on récitait beaucoup les sutras, on passait beaucoup de temps à réciter les sutras, on récitait le nom du Bouddha, on spéculait, il y avait beaucoup de spéculation, mais il n'y avait pas justement cette vision directe vers notre nature originelle en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'a amené en quelque sorte le bouddhisme Chan, c'est ce qu'a amené Bodhidharma. Hein, c'est-à-dire, comme je le disais, le bouddhisme réduit à son essentiel, à son essence, hein, puisque la parole même du Bouddha parle du nirvana. Elle dit, il y a une parole du Bouddha qui dit exactement comme le grand océan n'a qu'une seule saveur, celle du sel, mon enseignement n'a qu'une seule saveur, celle du nirvana. Hein. Donc, on peut dire que ce nirvana est un avec la connaissance du nirvana, est un avec la connaissance de notre nature de Bouddha, et qui est un avec, on peut dire, notre nature propre, hein. Voilà, notre visage originel. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux koan qui dit quel était votre visage originel avant la naissance de votre parent, de vos parents. Voilà. Quel était votre visage originel avant la naissance de vos parents ? C'est-à-dire pas avant votre naissance, avant la naissance de vos parents. Quel était votre visage originel ? Voilà.
Donc est-ce que ça veut dire que la lecture ou l'étude des sutras était un obstacle à cet éveil selon Bodhidharma et selon le zen en général ? Ils s'opposent peut-être à trop de spéculations qui risquent de... ruiner l'immédiateté.
Parce que justement, l'être humain, il est ainsi fait qu'il tend toujours à se disperser dans des spéculations. C'est-à-dire que dès qu'il peut, en quelque sorte, oublier sa nature propre et se perdre dans des spéculations mentales, il ne rate jamais une occasion de se perdre dans des spéculations mentales. Mais ça, c'est la nature humaine qui est ainsi. Donc, il faut toujours le rappeler à l'ordre. Et on peut dire que le Chan est un rappel à l'ordre, en quelque sorte. Est un rappel à l'ordre. Parce que effectivement, en Inde, le bouddhisme, quand on lit un petit peu tous les traités de Vasubandhu, d'Asangan, de Nagarjuna, c'est des traités de spéculation extrêmement fine, extraordinaire. Mais précisément, les moines avaient tendance à se perdre justement dans ces spéculations sans fin. Voilà. Et là, c'est un espèce de retour en quelque sorte. Et c'est un retour aussi à la terre. C'est pas simplement un retour à l'essentiel, à la nature de Bouddha, puisque dans le Zen, comme on va le voir, cette nature de Bouddha n'est pas différente du quotidien. Hein, c'est ça aussi, ce qu'a apporté. Et c'est pour ça que les Chinois ont adhéré tout de suite au bouddhisme Chan, très rapidement avec le bouddhisme Chan, parce que c'est un retour au concret. Or, ça correspond tout à fait à la nature, précisément, de l'esprit chinois. Hein. Et l'esprit chinois est un esprit concret, un esprit justement qui attache de l'importance juste aux choses concrètes, au quotidien, au travail quotidien. Hein. Or, précisément, le bouddhisme Chan, l'illumination en quelque sorte Chan, le Satori, n'est pas justement une espèce d'extase, comme dans la mystique chrétienne, pas du tout. Mais c'est au contraire une illumination du quotidien, une transfiguration du quotidien. Hein. Le Satori transfigure le quotidien. Et c'est pour cela, justement, que l'on attache beaucoup d'importance dans le travail manuel, dans le bouddhisme zen, notamment au Japon. Hein. Maintenant... Voilà, c'est un petit peu ce qu'a amené le bouddhisme Chan par rapport au bouddhisme de l'époque. Hein. Alors, ceci dit, pour répondre à ta question sur la récitation des sutras, eh bien, dans le bouddhisme Zen au Japon, il passe pas mal de temps, contrairement à ce que croient beaucoup d'occidentaux, à réciter les sutras. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, il se lève à 3 heures du matin l'été, 4 heures du matin l'hiver. Il passe d'abord une heure de 4 à 5 en méditation zazen, et ensuite il y a une heure de récitation de sutra avant le petit déjeuner à 6 heures du matin. Hein. Donc il y a quand même des récitations de sutra, les récitations de sutra ont quand même leur importance dans les monastères zen actuellement. Ceci dit, il y a des maîtres du bouddhisme chinois, notamment tous les grands maîtres du bouddhisme chinois, eux sont assez hostiles à tout ce qui n'est pas la voie directe en quelque sorte, hein. Donc c'est venu en quelque sorte se greffer après, hein, mais Wangpo, Linzi, Muso, enfin tous les grands maîtres de l'âge d'or du bouddhisme Chan, en quelque sorte, eux n'attachent aucune importance aux récitations de sutras. Eux, c'est simplement la connaissance de notre nature originelle, c'est tout. Voilà. Ils sont beaucoup plus rigoureux en quelque sorte, mais les moines zen actuels japonais disent que oui, eux, ils pouvaient se le permettre, car ils avaient en quelque sorte une nature qui était presque illuminée, mais nous autres pauvres habitants du 20e siècle ou du 21e siècle maintenant, nous sommes très loin d'avoir justement cette facilité qu'avaient justement les maîtres de l'âge d'or du zen, hein, de l'art du chan, voilà. Hein, c'est un petit peu ce que répondent les maîtres du zen actuel quand on leur pose la question, justement. Voilà. Ils opposent en quelque sorte cet âge d'or avec...
Et alors, comment sommes-nous passés du chan, donc du zen chinois, au zen japonais ?
Alors, d'accord.
Pour continuer dans...
Voilà, oui, on va continuer un petit peu. Je vais lire quand même une petite phrase avant de Bodhidharma, peut-être, pour montrer un petit peu ce qu'il raconte. Alors, demeurer ferme et constant, affranchi de l'enseignement discursif, c'est s'accorder mystérieusement avec le vrai principe. Comme il n'y a plus nulle discrimination, tout est tranquille et exempt de non. Voilà, hein, c'est une petite phrase extraite justement des œuvres de Bodhidharma, pour vous donner un petit peu une idée... de ce que c'était que Bodhidharma. Alors maintenant, comment on est passé du bouddhisme, de ce bouddhisme chinois en quelque sorte, le bouddhisme Chan, au bouddhisme Zen japonais ? Et en fait, il fut introduit assez tardivement par un moine qui s'appelle Yozai. Alors je vais vous donner ses dates de naissance et de mort, comme ça, ça sera plus simple. 1141-1215. Hein, donc c'est le 12e à cheval entre le 12e et 13e siècle.
En sachant que Bodhidharma, c'était le 7e siècle.
5e siècle, 5e oui, à peu siècle. Près 5e. Oui, c'était encore où, c'était le 5e siècle, à peu près. Mais peut-être c'est assez tardif. Oui, les dates ne sont pas géniales. Comme c'est des légendes, tout ça, c'est assez difficile. On a retrouvé des traces de son disciple Huike, hein, mais de Bodhidharma, on n'a retrouvé aucune. Oui, celui qui avait un bras en moi. Alors aussi, du point de vue historique, on dit qu'en fait, il n'avait pas, c'est pas lui qui s'était coupé le bras, mais qu'il avait combattu contre des brigands et qu'il avait perdu un bras en combattant contre des brigands. Alors peut-être qu'il faut dire, et je pense que c'est assez intéressant, c'est l'histoire de Huike qui me fait penser à ça, c'est que Bodhidharma, on attribue justement la naissance de tous les arts de combat à Bodhidharma, hein, c'est-à-dire que le Kung-Fu, le grand maître du Kung-Fu, le premier grand maître du Kung-Fu, c'est Bodhidharma. Hein, au monastère de Shaolin. Le monastère de Shaolin en Chine se réclame justement de Bodhidharma. Il le considère comme le fondateur du Kung-Fu, et vous savez que le Kung-Fu, l'art martial chinois, est à l'origine de tous les arts martiaux japonais. Hein. Donc c'est Bodhidharma qui est à l'origine de tous les arts martiaux, justement. Donc c'est assez intéressant de noter ça. Et comment justement, on va le voir justement en étudiant un petit peu le bouddhisme zen japonais, enfin le zen là japonais, comment il y a un lien très étroit entre justement entre le zen et les samouraïs, et notamment l'art martial. Hein, qui se trouve dès l'origine, donc dès Bodhidharma, mais qui se réincarne en quelque sorte, que l'on retrouve aussi au Japon. Alors donc, le Zen fut introduit au Japon par ce moine Yozai, qui était donc un représentant de l'école Rinzai, parce que vous savez que le bouddhisme Zen au Japon s'est polarisé sous deux formes, le bouddhisme Soto et le bouddhisme Rinzai. Donc on va un petit peu étudier les deux. Hein. Et il est arrivé, c'est assez intéressant de voir qu'il est arrivé sous sa forme Rinzai, donc 12e siècle, hein, 12e, 13e siècle, est arrivé au Japon. Et alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que Yozai, c'est lui qui a en quelque sorte non pas introduit le thé au Japon, mais on peut dire qu'il l'a rendu en quelque sorte populaire. Hein. Avant, c'était vraiment réservé à l'empereur, à la cour, le thé, c'était quelque chose de quasiment inconnu. Et c'est grâce à Yozai que justement le thé s'est répandu un petit peu partout, à la fois chez les religieux, religieux zen, parce qu'il s'était rendu compte que le thé, en buvant du thé, il pouvait rester éveillé en méditation plus longtemps et mieux, chez la riche bourgeoisie et chez l'aristocratie. Hein, c'est un petit peu, il a introduit, donc on peut dire le zen, ce moine Yozai, et en même temps, il a introduit le thé. Voilà. Alors vous savez aussi qu'il y a un lien entre le thé, la légende du thé et la légende de Bodhidharma. C'est le Bodhidharma, on dit que les premières plantes de thé, ce sont le Bodhidharma qui se méditait donc devant son mur et... comme il s'endormait, il s'est coupé les paupières, ses paupières sont tombées sur le sol et c'est à l'origine des premières plantes de thé. C'est pour ça qu'on appelle le thé la plante qui tient les yeux éveillés, hein, qui tient les yeux éveillés. Voilà, hein. Ce sont les paupières en fait de Bodhidharma. Donc vous voyez que Bodhidharma est à l'origine donc des arts martiaux, est à l'origine aussi du thé, est à l'origine de beaucoup de choses. Hein. Alors... l'école Rinzai, que donc ce moine Yozai a importé au Japon, se caractérise d'abord, elle privilégie l'expérience de l'illumination, le satori, sur la posture, le zazen, comme on le verra par la suite. Hein, l'école Soto, elle, privilégie plutôt la posture, le zazen, ce qu'on appelle le fameux zazen. Hein. Il insiste sur la pratique des koans. Et ce qu'il faut dire, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette école Rinzai et que le Zen, à son origine donc, était très lié à la caste militaire de Kamakura. Puisque au XIIe siècle, cette caste militaire avait pris le pouvoir, il rejetait en quelque sorte assez violemment la cour impériale qu'ils accusaient justement de se perdre justement dans la futilité, de manquer justement de rudesse en quelque sorte, de manquer de virilité, hein, au sens où les samouraïs l'entendaient. Et donc ils ont pris le pouvoir et ils n'ont pas voulu être à Kyoto, ils n'ont pas voulu suivre en quelque sorte, prendre la suite de la cour impériale qui se trouvait à Kyoto, mais ils ont créé leur propre capitale impériale qui était à Kamakura. Et Kamakura deviendra justement la capitale de l'Empire, la capitale du Japon pendant plusieurs siècles, pendant toute la période justement des shoguns, où les shoguns dominaient. Et précisément, cette caste militaire s'est enthousiasmée pour le zen tout de suite, pour plusieurs raisons. Déjà, à cause de la simplicité qui allait très bien justement avec ce côté justement simple, rude de ces guerriers, de ces samouraïs. Hein. Et puis aussi, le zen, il y avait une espèce de rigueur du zen. Et le zen avait, et disons que dans la pratique du zazen, précisément, les guerriers, les samouraïs, trouvaient justement une espèce d'énergie pour pratiquer leur art martial. Hein, et il y a un lien très étroit entre justement la pratique par exemple du kendo, c'est-à-dire de l'art du sabre, et puis le zazen. Hein. Et l'entourage du shogun justement a tout de suite répandu justement au maximum le zen rinzai dans tout le Japon. Et très souvent, il y avait justement des samouraïs qui devenaient moines zen, ou alors des moines zen justement qui étaient aussi des samouraïs, comme le grand maître Takuan, qui était un grand maître du sabre, voilà, et qui était aussi un moine zen. À ce propos, je vais vous raconter une petite histoire que l'on raconte à propos du rapport d'un samouraï avec Akuin, qui est une histoire que je trouve très belle. Un jour, comme ça, il y avait un samouraï qui en avait assez des combats et qui se posait des questions sur la vie. C'était un vieux samouraï. Et il va rencontrer ce grand maître zen qui était Akuin. Et il lui demande, il le voit comme ça à la porte du temple, et puis il lui dit, mais qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que le paradis? Et alors, à ce moment-là, Akuin le regarde et puis lui dit, toi, t'es un samouraï? Mais ton armure est rouillée. Est-ce que tu serais simplement encore capable de combattre à ton âge ? Et à ce moment-là, le samouraï sent la colère qui monte en lui, et il commence à sortir son sabre, et Akuin lui dit « Ceci est l'enfer ». Et immédiatement, le samouraï comprend, il rengaine son sabre, et Akuin lui dit « Ceci, c'est le paradis ». Voilà. Alors, il y a aussi... ce qu'il faut dire, c'est que la vie dans les monastères zen est une vie qui est très, très militaire. Hein. Comme je vous le disais, ils se lèvent à 3 heures l'été, 4 heures l'hiver. Ensuite, ils méditent pendant 1 heure ou 2 heures. Ensuite, il y a 1 heure de récitation de sutra. Ensuite, petit déjeuner. Ensuite, il y a travail, c'est-à-dire le travail. Travail dans le jardinage, dans la cuisine, dans le nettoyage. Vous savez peut-être que au Japon, la propreté des monastères zen est proverbiale. Et quand il mange, par exemple, un moine zen ne laisse même pas un grain de riz, hein, c'est-à-dire le moins de grain de riz sera mangé. Hein. Ils empilent leurs bols, ils ont des bols, ils les lavent eux-mêmes et ensuite ils les empilent. Disons que tout est réglé, le repas se passe en silence. Hein. Ensuite, après le repas, il y a à nouveau une heure de méditation zazen. Puis ensuite, il y a des récitations de sutras, à nouveau zazen. Et puis, parfois, pendant les périodes de méditation intensive, il y a une visite, disons, chaque moine va visiter le maître. Et puis ensuite, à 9h, c'est la cloche, et ils vont dormir. Hein. Et ceux qui veulent peuvent encore méditer dans la salle de méditation. Voilà. Et puis... à nouveau, 3 heures du matin, réveil, etc., etc. Donc, c'est une vie, en quelque sorte, d'une rigueur très, très militaire. Hein. Et ça, c'est complètement opposé, par exemple, à la vie dans les ashrams indiens. Hein. J'étais, il y a quelque temps, dans un ashram indien, et c'était le chaos total. C'est-à-dire, il y avait des gens qui méditaient allongés, d'autres assis sur des coussins, d'autres complètement repliés sur eux-mêmes. Enfin, c'était vraiment rien à voir avec un monastère zen. Mais ça marchait quand même. C'est assez étonnant, c'est-à-dire que les ashrams indiens qui fonctionnent de façon complètement chaotique fonctionnent aussi, et les monastères zen qui sont extrêmement stricts et extrêmement rigoureux, eh bien ils fonctionnent aussi. Voilà, donc il y a un petit peu, on peut dire, deux façons d'envisager la vie monastique, ou même peut-être même à la limite deux façons d'envisager la vie, et que finalement les deux, ça fonctionne. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le roman de Michel Tournier qui s'appelle Le Vendredi, et il décrit justement ces deux aspects, il oppose en quelque sorte l'espèce de Robinson Crusoe qui justement adopte une vie, il est tous les seuls avec son serviteur, ils sont tous les deux tout seuls sur cette île déserte, un adopte pour une vie de type militaire et l'autre pour une vie en quelque sorte qui se coule en quelque sorte avec les flux de la nature, voilà.
Pour revenir donc sur le zen, et puis pour finir ce petit survol historique avant de passer aux questions, parce que peut-être que certaines personnes ici ont des questions à poser. Est-ce qu'on peut parler du zen Soto ? Parce que là, donc, oui. Eric nous parlait de l'école Rinzai, fondée par Yosai, mais j'aimerais aussi qu'on parle de Maître Dogen, qui est un personnage extrêmement important dans l'histoire du zen, fondateur du Soto.
Alors,
et, oui. Puis, et puis comprendre aussi la différence entre l'école Rinzai et l'école Soto. Parce qu'on a vu que le Rinzai était très ciblé sur le Koen et le Soto plus sur l'assise, le Zazen. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du Zen Soto, qui est le Zen le plus important au Japon en plus ?
Oui, alors l'école Soto est effectivement de beaucoup l'école la plus importante, hein, par rapport à l'école Rinzai, puisqu'elle possède 15 000 temples et 31 monastères. Hein, 15 000 temples, donc c'est l'école Zen la plus importante. Parce qu'elle s'est répandue dans des milieux beaucoup plus populaires, hein, alors que le Rinzai a toujours été en quelque sorte réservé à une certaine aristocratie, à une certaine caste militaire qui était une certaine noblesse en quelque sorte, hein, l'équivalent de la noblesse en Occident. Le Soto s'est tout de suite répandu dans les campagnes, c'est-à-dire qu'il s'est tenu aussi complètement en dehors de toute hiérarchie. Hein. Dogen, d'ailleurs, le fondateur de l'école Soto, lui a toujours voulu se tenir en dehors des hiérarchies politiques ou militaires. Hein. Il s'est toujours tenu à l'écart. Donc, de ce fait, il s'est répandu dans des milieux beaucoup plus populaires. Alors maintenant, quelle est la grosse différence entre l'école Rinzai et l'école Soto ? L'école Rinzai, comme je vous l'ai dit, pour atteindre la nature de Bouddha, pratique la méditation sur les koans, c'est-à-dire que ces petites phrases comme ça, en apparence absurdes, mais en fait pleines de sens, qu'il faut résoudre, hein, alors que l'école Soto attache toute l'importance à la posture, c'est-à-dire à ce qu'on appelle zazen. Alors qu'est-ce que c'est que zazen, qui est justement l'essentiel dans le Zen Soto, dans l'école Soto. Qu'est-ce que le zazen ? Zazen, c'est d'abord une posture corporelle, c'est-à-dire qu'il faut que s'asseoir sur le bord du zafu, il faut que les jambes soient en lotus ou en demi-lotus, que tout le corps soit à la fois tendu comme un arc et détendu comme celui du chat, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de tension détente qu'il faut trouver. Tous les aspects de la posture sont soigneusement étudiés et doivent être soigneusement respectés. C'est-à-dire que, par exemple, les deux mains doivent reposer l'une sur l'autre et que les deux pouces doivent se faire face. Et ces deux pouces ne doivent pas monter parce que ça indique que notre esprit est égaré dans des pensées errantes. Les deux pouces ne doivent pas tomber parce que ça indique que l'on s'assoupit. Donc, ils doivent être absolument à l'horizontale, en quelque sorte, l'un en face de l'autre. Voilà. Hein. Il faut que les yeux soient à demi ouverts et regardent à un mètre ou deux devant soi. Hein. Donc, le langue collé sur le palais, etc., etc. C'est-à-dire que tous les détails de la posture corporelle sont étudiés et, au besoin, les rectifient pour, justement, qu'on adopte une posture parfaite. Hein. La posture, c'est la base. C'est l'assise, en quelque sorte. L'assise, c'est la base du zazen. Et à partir de là, justement, il faut être attentif au souffle, au mouvement, en quelque sorte, du va-et-vient du souffle. C'est-à-dire au souffle, non pas comme dans le Hatha Yoga, on ne cherche pas à contrôler le souffle, à l'arrêter, mais simplement on est attentif à son mouvement de qui va et vient, c'est-à-dire le souffle qui entre et qui sort. Alors dans certains monastères, on conseille de compter 1 à l'inspire, 2 à l'expire, 3 à l'inspire, etc., etc., hein, jusqu'à 10, et de recommencer. Et dans d'autres monastères, il n'y a pas justement de compte des respirations, mais simplement attention justement au mouvement du souffle à l'intérieur du corps. Voilà, hein. Et lorsqu'il y a des pensées qui nous habitent, qui nous parasitent en quelque sorte, il ne faut pas chercher à lutter contre elles, mais revenir en quelque sorte à la posture et justement le mouvement du souffle qui va et qui vient. Voilà. Hein? Voilà, ça c'est le zazen. Et le zazen, justement, c'est la base de l'école Soto. C'est la base du zen selon l'école Soto. Hein? Justement, il y avait le maître Deshimaru qui disait la posture est le satori, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas de satori à chercher, parce que, dit le maître Deshimaru, avoir le plus infime but éloigne de la vérité du zen. Donc il n'y a pas à chercher quelque chose, il n'y a pas à chercher le satori, il y a juste à être parfaitement présent dans l'instant. Voilà. Et ça, on ne peut être présent dans l'instant que grâce justement à cette posture, à ce zazen. Voilà. Hein? Et celui qui a introduit l'école Soto et le zazen en Occident est Deshimaru. Hein? Deshimaru qui a fait ça dans les années 60-70. Voilà.
Sans qui nous ne connaîtrions pas le zen en France, parce
que c'est vraiment... Sans qui nous ne connaîtrions pas le zen en France aussi. Il y avait déjà les livres de Suzuki, par exemple, qui développaient une autre zen, qui est le zen, lui, plutôt Rinzai, hein, qui est l'école, justement, du koan. Mais l'école Soto ne serait pas connue en France sans, effectivement, cette venue de Deshimaru, qui, en principe, aurait dû... son maître lui avait demandé de prêcher en Occident. Mais il est resté en France en attendant en fait de s'embarquer aux États-Unis. Mais finalement, il s'est trouvé très bien en France et puis il a séduit les Français par son énergie, par son humour, et ce qui fait qu'il s'est installé en France. Hein, il s'est installé en France et voilà, c'était un maître. Un bon représentant de l'école Soto, c'est-à-dire quelqu'un plein d'énergie, plein de force, qui avait beaucoup d'humour. et qui était aussi d'une grande générosité. Voilà, hein, on peut dire ça. Il était un personnage un peu... Il a vraiment séduit les Français par son humour aussi. Hein. Il plaisantait souvent. Il refusait jamais de boire un coup, de boire... ça aussi, je pense, a participé de toute la... toute cette sympathie qu'il a rencontrée en France, voilà, hein, ce qui fait qu'il s'est installé d'abord à Gretz et puis ensuite à Paris, à Pernetti, où je l'ai connu rue Pernetti, où il dirigeait des méditations zazen, voilà.
Je me dis qu'on va vous laisser un petit peu de temps si vous souhaitez pour regarder d'une part les ouvrages qui sont sur la table, ou voir Eric, lui poser des questions, lui demander une dédicace. Voilà, donc vous avez encore le temps de venir pour discuter un petit peu, un quart d'heure à peu près. Merci à tous d'être venus.